Elena Dark, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Radio Campus.
Ben, merci.
Donc, vous présentez actuellement une exposition de peinture chinoise et donc sur un thème, l'art du trait en mouvement. Et donc, cette exposition est visible jusqu'au 22 mars. Ça se passe à la librairie des voyageurs. Donc, effectivement, l'idée de voyage est bien présente. 15 rue Saint-Jacques à Lille. Tout d'abord, Elena Dark, qu'est-ce qui vous a intéressée et conquise dans cette peinture chinoise et notamment dans l'art du trait ?
Eh bien, la peinture chinoise, je trouve qu'elle est très très différente de la peinture occidentale que je pratiquais un petit peu avant de partir en Chine. Et en fait, je pense que l'esthétique chinoise m'attirait beaucoup. Parce que c'est un peu l'art de la suggestion, l'art du geste un peu parfait, maîtrisé et unique, qui donne vie à une œuvre. Et ça me plaisait beaucoup parce que en Occident, la peinture est très travaillée, souvent couche après couche. Il y a des gens qui arrivent à trouver de la liberté dans la peinture abstraite contemporaine, par exemple. Mais rarement dans tout ce qui est figuratif ou réaliste. Et moi, quand je peignais avant de partir en Chine, je trouvais pas moi-même de façon d'être libre dans ce que je faisais. Donc, je l'ai trouvé en Chine complètement par hasard.
D'accord. Donc, en fait, vous êtes arrivé en Chine sans avoir d'idées préconçues et même sans forcément avoir songé à aller voir ce qui se passe chez les artistes.
Non.
C'est une rencontre particulière ?
Oui, c'est une rencontre. Mais en fait, quand je suis partie en Chine, quand même, le pays m'attirait bien évidemment, sinon je n'aurais pas choisi cette destination. Et notamment, l'esthétique, c'est un peu large, mais c'est pour dire l'ambiance, enfin ce que nous occidentaux on se figure comme ambiance chinoise, c'est-à-dire les temples, la musique, les paysages, enfin les pains de sucre, les rizières, voilà, enfin tout ce qui fait la Chine à nos yeux. Et c'est avec cette idée que je partais et c'est cette esthétique qui m'attirait beaucoup, voilà. Et après, j'ai pas cherché spécialement avant de partir. De renseignements sur la peinture ou la calligraphie. J'avais lu notamment le livre de Fabienne Verdier, Passagère du silence, ça m'avait beaucoup touchée, beaucoup marquée, mais à part ça, non, je ne m'étais pas documentée particulièrement, enfin, j'avais pas nourri de passion avant de partir. Et c'est en me promenant dans les routons de Pékin, un peu par hasard, que je suis tombée dans un tout petit local, un petit kajibi, où j'ai rencontré un peintre. Au début, je parlais pas chinois, vraiment deux mots, quoi. Donc on a rien échangé.
Ni hao.
Voilà, ni hao. Où je lui disais que j'aimais bien ce qu'il faisait. On avait échangé vraiment des politesses. Et puis je m'étais dit, ah tiens, il faut vraiment que je revienne parce que j'étais subjuguée par la peinture. Et donc du coup, je suis revenue plein de fois. Il a fini par voir qui j'étais, voir que bon, je progressais un petit peu en chinois, on a pu prolonger la discussion. Et je lui ai demandé, à partir d'un moment, je lui ai demandé, j'aimerais bien apprendre, est-ce que vous pouvez montrer quelques traits ? Et il me disait toujours, oui, oui, pas de problème, oui, oui, mais le oui chinois, c'est toujours un oui-non, enfin, on n'a pas trop de mots pour expliquer ça en France.
Un oui poli ?
Voilà, un oui poli. En fait, il faut capter un minimum les règles de vie là-bas pour sentir à un moment donné que le oui est un oui franc.
Alors, ces règles, on les découvre bien sûr au fur et à mesure. Quel est le grand décalage entre votre impression française avant d'aller en Chine et là-bas, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a semblé très très différent ?
Oh là là, en fait, c'est une autre planète quand on débarque, je trouve. C'est... Je sais pas comment expliquer parce que tout est tellement différent de chez nous. Tout, les personnes, le nombre de personnes dans la rue, la façon dont les gens se comportent, ils crachent par terre, ils se poussent. Moi, je m'attendais à quelque chose de peut-être plus... plus dans la vision occidentale, comme je disais tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à atterrir dans une mégalopole mondiale comme Pékin, où finalement les buildings poussent dans tous les sens, et où je dirais que le modèle de développement est peut-être celui des États-Unis.
Alors là, effectivement, Pékin n'est pas la Chine. Si on va dans le Xinjiang, comme la musique qu'on entend là, c'est très différent, bien sûr.
Oui.
Donc vous, ce qui vous a intéressé, c'est la tradition en Chine et notamment à Pékin.
Oui, c'est la tradition, mais en fait, je suis pas partie pour ça. Je suis partie parce que j'ai fait un stage, en fait, d'un an dans une radio d'État chinoise, Radio Chine Internationale. Et donc, c'est une radio qui émet dans toutes les langues du monde. Et j'étais dans le département francophone. Donc, c'était là le but de mon voyage en Chine.
Une belle expérience.
Oui, très très belle expérience. Très incroyable. Parce que...
On pourra peut-être parler un petit peu des différences entre une radio comme Radio Campus et la radio Pékin en français.
Alors, bah oui, c'est encore une autre planète, on peut dire ça comme ça, parce que déjà, il n'y a pas la même liberté de parole. Là-bas, les émissions sont jamais en direct, donc on lit tout, quoi. On n'improvise rien.
Et avant de lire, on fait superviser le texte ou non ?
Oui, bien sûr.
Ouais, quand même.
Bien sûr. Ce qui a été intéressant, c'est qu'au début, on m'a quand même dit, t'es une stagiaire, donc tu feras ce qu'on te demande. Et puis au bout d'un moment, j'en étais quand même un peu frustrée parce que personne n'est sans savoir que la censure et la propagande sont quand même quelque chose d'omniprésente. Enfin, d'omniprésent, pardon. Et donc, c'est assez difficile parce qu'on se sent très vite un peu complice de ça. On devient un rouage de système. Donc on en culpabilise. On n'est pas très content du résultat de ce qu'on produit, de tout ça. Donc, à un moment donné, il faut un peu dépasser tout ça et accepter, donc finalement passer à l'autocensure plutôt qu'à la censure qu'on nous impose. Et puis prendre des initiatives, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver du bien dans mon stage. C'est qu'au début, je faisais ce qu'on me demandait et j'en étais un peu frustrée parce que voilà ce que je vous explique. Et puis à la fin, je faisais mes reportages, les montées de A à Z. Je l'ai proposé, je m'auto-censurais parce que je savais qu'il y avait des choses qui passeraient pas, et puis des fois on coupait encore davantage ce que j'avais produit, mais au moins j'avais fait quelque chose.
Donc on peut quand même trouver des sujets et les diffuser.
Oui.
Après c'est une question de dosage, de conformité du produit par rapport à l'environnement.
Voilà, exactement.
Est-ce que cet environnement est en évolution ? Est-ce que l'année où vous êtes allé, c'était quand ?
2006.
D'accord, donc 2008, il y aura les JO, tout ça. On sent un petit vent d'ouverture ou...
Je sais pas du tout. Je sais pas parce que je reste assez liée avec la Chine, mais il n'y a rien qui arrive jusqu'à moi.
Néanmoins, c'est vrai que cet état de fait est dans un contexte, et c'est difficile pour nous, les Français, de juger un équilibre global d'un pays qui est quand même complexe.
Oui, tout à fait. C'est toujours très très difficile de parler de la Chine, moi je trouve en tout cas, et souvent on part dans des discussions, dans des diatribes sans fin parce que il faut y aller pour comprendre, en fait, je pense. Notre esprit occidental est très rationnel. On a une rationalité qui nous est propre. Et quand on arrive là-bas, quand je dis que c'est une autre planète, c'est que la rationalité n'est plus la même. Et donc, au premier abord, on est émerveillé parce qu'on se dit « Oula, c'est génial comment il fonctionne, c'est différent, c'est la richesse culturelle, c'est le choc culturel, tout ça. » Puis petit à petit, on se dit « Oula, mais... Oula, je comprends pas comment ça se passe. » Des fois, on est même... On peut être choqué, on peut se sentir un peu... comment dire, atteint, parce que évidemment on commet des impairs, ils commettent aussi des impairs, les Chinois, vis-à-vis de nous, et donc tout ça c'est assez difficile, mais c'est un apprentissage, c'est le temps qui fait qu'on capte les règles et la vie sur place.
C'est vrai que cette société est tellement vaste qu'elle a forcément des règles d'autant plus contraignantes, on va dire, que l'espace à gérer est immense, non ?
Oui, surtout que bon, moi, j'ai atterri à Pékin. D'ailleurs, j'ai appris la langue pékinoise. Enfin, j'ai appris le mandarin, mais avec un accent pékinois.
Mmh.
Donc, comme j'avais pas appris chinois en France avant, j'étais modelée avec cet accent-là, enfin, avec mon accent français bien sûr, mais quand je suis partie ailleurs en Chine, les gens ils me comprenaient pas toujours. Donc ça c'est un exemple pour dire que la Chine est extrêmement compliquée, et vaste, plurielle.
On peut dire que il y a un petit peu une condescendance du pékinois sur le reste de la Chine, un peu comme les Parisiens en France.
Oui oui. Mais de même des Shanghaïens, par exemple.
Aussi.
Ouais. Parce que, finalement, en Chine, ce qui est positif, c'est la modernité et c'est la richesse. Et ça, c'est au-dessus de toutes les autres valeurs. Enfin, je sais pas précisément, mais en tout cas, dans les discours, ça se ressent pas mal. Et donc, du coup, bah, comme c'est les villes qui incarnent la richesse... la réussite économique et puis le pouvoir. Voilà, c'est donc la mode qui s'y crée et tout ça.
En même temps, les traditions sont assez bien préservées ou du moins sont assez bien récupérées parfois aussi d'un point de vue commercial.
Ah oui, tout à fait. Quand on part en Chine, dans des coins peut-être touristiques mais assez reculés, on se rend compte que toutes les minorités ethniques, par exemple, comme elles sont appelées là-bas, sont utilisées à titre de folklore.
C'est aussi une forme d'économie pour ces régions qui sont souvent pauvres.
Oui, c'est vrai, mais des fois c'est assez particulier quand même, parce que on arrive dans un village, par exemple, qui est très touristique, et on se rend compte que toutes les villageoises ont été habillées par l'État avec des costumes traditionnels, mais produits en masse.
Mmh.
Pour que le touriste dise « Oh là là, c'est magnifique ici, tout le monde... » enfin...
Alors, quand on dit le touriste, en fait, il y a beaucoup plus de touristes chinois que
voilà,
de touristes français, en plus, hein, ou même étrangers,
oui.
D'ailleurs. Hein.
Oui, il y a beaucoup de touristes
chinois.
Donc,
quand on dit touriste, c'est 90% tourisme chinois.
Oui, oui.
Mais c'est quand même souvent, d'un seul coup, une plongée dans l'histoire aussi, le fait de voyager en Chine.
Oui, c'est...
Dans l'histoire de la Chine.
Oui, oui, mais je trouve que après tout se modernise tellement vite que c'est pas toujours évident de sentir, parce que bien sûr on sent les différentes époques, notamment le passé maoïste, etc. On le sent très bien, parce que quand on va dans des coins un peu reculés, on voit sur les maisons, par exemple, des portraits de Mao, de Deng Xiaoping. Ou d'autres dirigeants chinois. Et puis, oui, il y a des choses qui se sentent, mais en même temps, elles sont assez masquées. Je ne sais pas comment dire. C'est quand même la modernité qui prime.
Mm-hmm. Alors, dans cette modernité, il y a encore de la place pour des arts particuliers, notamment le vôtre.
Oui. Alors, la peinture chinoise, elle revient beaucoup à la mode en Chine. Bien sûr, elle a été réprimée pendant la Révolution culturelle, si bien qu'il n'y avait plus beaucoup de maîtres qui pouvaient enseigner ou même pratiquer eux-mêmes. Et donc, depuis quelques années, je ne sais pas combien, il y a un renouveau de cette peinture chinoise, notamment à travers la calligraphie, parce que la peinture chinoise, elle tire son essence de la calligraphie. Les gens d'un certain âge, mais aussi un peu plus jeune, pratiquent beaucoup la calligraphie, notamment dans les parcs. Donc ils ont des pinceaux immenses qui sont souvent faits de toc. Et en fait, ils les mouillent et ils font de la calligraphie sur des pavés ou je sais pas quoi.
Parce que ce qui compte peut-être pour eux, c'est davantage le geste et l'idée du geste que le résultat final.
Exactement.
Et la conservation de ce résultat.
Oui, c'est éphémère, on s'en fiche, c'est... C'est pour partager ça, puisqu'en général, quand quelqu'un se met à calligraphier dans un parc, il a une assemblée autour de lui qui contemple, qui fait ses commentaires, et voilà.
的月弯弯，勾出过往。夜太漫长，凝结成了霜。是谁在阁楼上冰冷的绝望？雨轻轻弹，朱红色的窗。我一生在纸上被风吹乱，梦在远方化成一缕香，随风飘散你的模样。烛光灿烂地上，你的笑容已泛黄，花落人断肠，我心事静静躺，被风乱也未央。
Voilà, nous sommes en compagnie d'Elena Dark donc pour la présentation de ce thème, l'art du trait en mouvement. Donc la peinture chinoise aujourd'hui sur notre antenne est à l'honneur. Donc qu'est-ce qu'on peut dire encore de cette culture de la peinture chinoise en France? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut en voir, j'allais dire, de bonnes?
Alors là, je ne me suis pas encore renseignée parce que je suis plutôt tournée vers la Chine. Je sais que bah, y a quand même des Français qui ont appris la peinture chinoise ou la calligraphie, ou les deux même d'ailleurs, notamment Fabienne Verdier, donc, qui a fait plusieurs expositions dans des galeries parisiennes, qui a sorti plusieurs livres, etc. Mm-hmm. Donc ça c'est pour le plus connu ou le plus célèbre. Après, j'ai vu que Il y a quelques peintres chinois qui avaient fait des livres. Je ne sais pas s'il y a des expositions qui vont avec sur différentes régions de France. Donc, par exemple, il y a un livre sur le Nord-Pas-de-Calais, vu par un peintre chinois.
Oui, c'est bien ça, faut qu'on trouve ça.
Oui. Il y a aussi sur la Bretagne, il y a Paris. J'ai pas vu exactement toutes les régions de France, mais je sais que c'est des artistes différents à chaque fois qui montrent leur regard à travers la peinture chinoise sur une région française.
Alors, souvent dans ces tableaux, il y a un peu tous les formats, on va dire, hein, il y a un sceau, un cachet dessus. Peut-être qu'on peut expliquer un peu à quoi ça correspond.
Alors, le sceau, en fait, c'est la signature de l'artiste. Et donc, en général, il met son nom. Donc, il peut mettre aussi un message, par exemple bonheur ou quelque chose qu'il aime, qu'il définit, etc. Il y a des sceaux de toutes les formes et de toutes les tailles. Et donc, du coup, on peut les apposer sur l'œuvre, soit seul, soit un grand, un petit, un carré, un ovale. Donc, il y a un art des sceaux autant qu'il y a un art de la peinture.
Et ce sceau, on le garde toute sa vie quand on est artiste ou on change au fil du temps ou des styles on fait évoluer un peu son travail ?
Ça dépend. Je pense qu'il y en a au moins un ou deux qu'on garde toute sa vie. Il y a la signature pour les petits formats, il y a la signature pour les grands formats parce qu'on ne peut pas faire un tout petit sceau d'un centimètre de diamètre pour si c'est un rond. Pour une œuvre qui est très très grande, sinon c'est dérisoire. Donc je pense qu'on en garde plusieurs suivant les formats, et puis après ça, ça dépend de l'attachement sentimental au sceau, ça dépend de pas mal de choses. Je connais pas tout à fait l'art des sceaux parce que c'est un art à part entière, comme l'art de maroufler aussi, donc de superposer, parce qu'on travaille sur un papier de riz. Parce que nous, en France, on appelle papier de riz, mais qu'en fait, un papier issu de la feuille de mûrier. Ce papier-là, on ne peut pas l'encadrer. Enfin, on ne peut pas directement le transporter ou le poser tellement il est fin, il est très, très fragile. Donc, on maroufle. C'est-à-dire qu'on le pose sur une autre couche de papier de riz, voire deux, pour pouvoir après avoir quelque chose de suffisamment solide pour le tenir, voire pour l'encadrer, enfin le mettre en valeur. Donc on travaille aussi sur des rouleaux, donc des rouleaux où le cadre est en soie, avec deux baguettes en haut et en bas, et il y a un carré plus ou moins important, vertical, long ou horizontal, format portrait ou paysage, enfin ça dépend. Où on va directement peindre.
Alors, est-ce que le fait que l'écriture autrefois était verticale a eu une influence sur les œuvres ?
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres verticales, en fait. Je pense. Après, je ne sais pas précisément, mais il y a une prépondérance des œuvres à la verticale. Donc, d'ailleurs, parce que c'est important pour un peintre chinois de pouvoir écrire, ça a apparu, je sais pas sous quelle dynastie, mais ça a apparu qu'il fallait écrire un poème avec l'œuvre pour magnifier l'œuvre, en fait, pour lui donner une touche philosophique ou une autre substance. Donc on appose un poème ou un mot ou simplement réaliser l'année du rat.
C'est vrai que c'est assez pratique ce format vertical. Je vois à Xi'an, par exemple, il y a dans les rues plein de banderoles écrites. Et donc là, effectivement, la poésie verticale, c'est plus facile à poser qu'horizontale.
Oui. Oui, d'ailleurs, même sur les petits formats carrés, mettons, quand on va calligraphier le poème ou le mot qui accompagne la peinture, on va le calligraphier de haut en bas en faisant plusieurs colonnes. Mmh. Ça sera jamais comme dans l'écriture courante, puisque les Chinois écrivent comme nous. Hein. Enfin, même si c'est des idéogrammes, ils écrivent à l'horizontale, mais jamais sur une peinture.
D'accord. Alors, les thèmes de cette peinture, souvent, c'est la nature.
Oui.
Et alors, la nature est aussi la nature poétique, on peut même préciser, non ?
Oui, parce que alors il y a beaucoup de thèmes. Donc il y a l'homme aussi, hein. Il y a aussi des personnages. Donc il y a les arbres et les rochers. Il y a rochers ou pierres. Il y a les fleurs, les plantes, les oiseaux. Il y a les paysages, les portraits. Et alors suivant les différentes périodes ou les différents peintres. Suivant les différents peintres. suivant les différents peintres, ils ont trouvé un ensemble de thèmes qu'ils avaient envie de retranscrire. Donc ils ont établi un certain nombre de domaines de peinture. Donc, comme je disais, rochers, fleurs, etc. Et puis, suivant les périodes, il y a eu 8 thèmes, 5 thèmes, 2 thèmes, 3 thèmes. Et donc, c'est très important parce que un apprenti peintre ne pourra pas tout de suite passer au paysage. Mmh. Parce que c'est le paysage et personnage, c'est l'ultime maîtrise de la peinture.
D'accord. Donc, il y a eu une certaine période. Enfin, moi, j'ai connu des artistes traditionnels assez âgés maintenant qui ont essayé de se renouveler, de se remettre en cause et de passer un peu à la peinture contemporaine. Là, vous nous dites, Elena Dark, qu'il y a tendance à remettre à la mode ce mode d'expression.
Oui, oui, oui.
Donc, où on en est ?
Ben, je sais pas trop. Je vois qu'en Chine... alors, je sais pas dans quelle mesure c'est réellement une envie profonde des gens qui le font, ou si ça peut aussi avoir un aspect commercial, je sais pas, parce qu'il y a quand même toujours cette idée de vivre de son art et de quand même vendre, notamment avec...
Bon, on peut vendre aussi des choses qu'on aime, hein. Il n'y a pas forcément de honte. Hein.
Non, il n'y a pas de honte, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Chine, par exemple... Vu comment il y a un boom autour de... Enfin, une mode autour de cette Chine, le nombre de touristes qui, par exemple, va à Pékin, va avoir envie de ramener une peinture, voir son nom calligraphié, etc. Ça, ouais. Et en fait, on voit une multiplication de soi-disant peintres, donc ils vont étaler... leur peinture comme ça dans la rue et alpaguer le touriste.
Comment on fait la différence entre un vrai artiste entre guillemets et quelqu'un qui fait ça en grande série et pas forcément avec beaucoup de talent?
Ça se voit tout de suite quand on connaît un petit peu. Ça
oui,
se voit tout
comment,
de suite.
Comment? À quoi?
ça se voit parce que déjà d'un point de vue esthétique, par exemple, si je prends le bambou qui... comme vous me disiez tout à l'heure, chaque fleur, chaque arbre, chaque chose a une signification. Par exemple, la pivoine va être signe de noblesse ou de distinction, en fait. Enfin, c'est une fleur noble. Le bambou va être signe de loyauté, enfin, bon, il y a des significations pour chaque chose comme ça. Et on le voit tout de suite. Quand ça a été fait à la va-vite, quand il y a rien qui ressort, en fait. Il y a pas de... Alors, je trouve pas les mots forcément.
C'est plaqué.
Oui, c'est plaqué. C'est comme si je vous demande de...
Il n'y a pas d'harmonie, quoi.
Il n'y a pas d'harmonie. C'est comme si je vous demandais de me dessiner un cheval.
Ça va être dur.
Voilà. Je sais pas. Je connais pas vos talents.
Non,
mais...
nul.
Mais voilà.
Je crois qu'il faut laisser la vraie place aux vrais artistes. Hein ?
Oui, mais en Chine, on devient un artiste après de longues années. Donc c'est sûr que celui qui veut se faire un petit peu d'argent en peignant un bambou, et je veux dire, on ne peut pas non plus critiquer parce que il faut survivre aussi dans un pays comme ça.
Moi, j'ai quand même vu des vrais artistes dans les ateliers, notamment à Shanghai, qui font de la peinture contemporaine, mais qui travaillent comme des forçats aussi. Hein.
Mmh. Ah oui.
Ils font des productions en quantité et on les voit bosser de très tôt le matin à très tard le soir. Vraiment, quand on dit travailler, les Chinois travaillent, même les artistes.
Oui, ils travaillent beaucoup Et surtout, ils ont une grande admiration, en tout cas pour ce qui est peinture contemporaine, du passé occidental en termes de culture et de pratique. Par exemple, la peinture à l'huile est extrêmement prisée parce que ben, ça représente toute la culture française ou occidentale d'ailleurs. Enfin, ils sont aussi admiratifs de notre peinture qu'on peut être de la leur. Donc, du coup, je pense que cette technique, elle veut être maîtrisée. Cette technique de la peinture à l'huile, par exemple, va être maîtrisée totalement. Mm-hmm. Par exemple, moi, je sais que j'en suis à une initiation. Je peux pas dire que je maîtrise la peinture chinoise. Je commence et peut-être dans 10 ans, si je continue comme ça, peut-être que j'aurai une certaine maîtrise. Mais un chinois, enfin un peintre contemporain chinois qui pratique la peinture à l'huile va vouloir maîtriser la peinture à l'huile comme moi je voudrais maîtriser la peinture chinoise. Donc ça nécessite des journées de travail.
Et ce qui est remarquable, c'est souvent la précision, j'allais dire la méticulosité de ces artistes,
hein, oui,
par rapport aux nôtres, qui parfois on peut les trouver un peu fantaisistes. Là, ils sont peut-être parfois fantaisistes, mais dans un travail acharné.
Oui, ben disons que c'est pas non plus le même stade de production de peinture, c'est-à-dire que l'art contemporain en Chine est apparu il n'y a pas si longtemps que ça.
Alors, comment on peut progresser en étant encore en France, alors que la culture qui sous-tend votre œuvre, c'est quand même la culture chinoise?
Bonne question. La réponse est que je pense que si je continue dans cette voie, de toute manière, il faudra que je retourne en Chine. Et c'est prévu. Parce que déjà, je ne sais pas calligraphier. Et donc, je ne pourrai pas progresser en peinture tant que je ne saurais pas calligraphier. Donc, certes, j'ai peut-être acquis un soupçon de liberté dans mon geste par le travail. Mais après ça, je ne l'aurai jamais complètement si je ne pratique pas la calligraphie et si je ne l'apprends pas tout court. Et donc du coup, je veux absolument retourner pour apprendre là-bas, parce que je sais qu'ici, il y a aussi des cours de calligraphie dispensés par des Chinois, mais je veux être imprégné.
Donc a priori, un séjour est prévu. Quand? Combien de temps?
Ben alors là, c'est dans le programme. Normalement, j'aimerais retourner pour l'été. Donc...
En touriste pendant 2 mois, c'est ça?
Pour l'instant, il faut que je trouve quelqu'un qui serait susceptible de m'apprendre, parce que le maître avec qui j'ai appris est très sollicité, parce que quand je l'ai rencontré, il n'était absolument pas connu, et puis l'année où on a travaillé ensemble, ça a été un boom pour lui. En fait, il est parti faire un colloque à Saint-Pétersbourg, il a commencé à figurer dans les revues artistiques chinoises. Et puis bon, bah, du petit KGB où je l'ai rencontré, il est passé à son propre atelier, ou comble du luxe, il avait acheté un climatiseur quand je suis partie, donc c'était le début de la gloire. Et donc je sais pas si il aura le temps de m'apprendre. En tout cas, je sais que je retournerai le voir forcément. Et notamment, des amis chinois m'ont expliqué que fallait mieux que je m'adresse à quelqu'un qui est à la retraite maintenant.
D'accord. C'est vrai que des gens à la retraite, on en voit beaucoup dans les jardins.
Oui, oui.
Donc peut-être que vous allez y trouver votre bonheur.
Bah, j'espère.
Et votre inspiration peut-être, les jardins chinois.
Hein? Oui, c'est la nature qui compte là-bas. Enfin, c'est vraiment le thème d'inspiration premier.
Alors, ce qu'on va rappeler, c'est l'exposition qui a lieu donc jusqu'au 22 mars. Et ça se passe à la librairie des voyageurs, 15 rue Saint-Jacques à Lille. Le thème, eh bien, c'est l'art du trait en mouvement. Et là-bas, comment ça se passe? Vous y êtes parfois? On peut vous rencontrer?
Oui, j'y serai tous les samedis. Peut-être dans la semaine, je passerai. Alors ça sera un peu au hasard. Surtout, demain soir, il y a un vernissage. Donc à tous ceux qui sont tentés... ils sont les bienvenus, donc à partir de 19h à la librairie. Donc il y aura un petit apéritif chinois, alors avec les moyens du bord, parce qu'on est en France quand même. Et voilà, donc ceux qui veulent découvrir l'expo, et puis passer un petit moment sympathique.
Merci Elena Dark et très bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.